Alors, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin à la maison. Hein, on peut être loin longtemps, mais quand on vient à la maison, c'est comme si on était à la maison chez nous, ça fait du bien. Alors, ce matin, là, vous êtes déjà assis. Je ne sais pas ce que vous faites assis, mais on va se saluer les uns les autres. Pendant qu'on va laisser en contact les ados de 6e année à secondaire 5, vous pouvez aller dans votre local, dans le hall, et prenons quelques minutes pour vous saluer, pour se souhaiter la bienvenue. Amen. Amen. Vous savez, le Carrefour, c'est international. On était à l'aéroport, puis on croisait des gens de l'Église qui venaient de la Colombie, qui étaient en voyage, qui revenaient. On en a d'autres qui venaient du Portugal. Tous les chemins mènent au Carrefour, pourquoi pas? C'est un plaisir d'être ensemble. Amen. Juste quelques annonces, puis ensuite on va passer au message. Juste remercier tous ceux qui donnent, qui le font fidèlement. Vous savez, je suis allé à un endroit où est-ce qu'il y avait 3 offrandes dans la même réunion. Puis là, vous dites, pourquoi qu'on fait pas ça ici? C'est pas parce que c'est pas important qu'on le fait pas. C'est très important de mettre Dieu en premier dans nos vies. Comprenez-moi bien. Mais on veut juste vous encourager justement à être de ceux qui donnent avec foi, avec joie, selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Alors, il y a toutes sortes de façons de le faire. Vous pouvez aller à la table si vous voulez contribuer. Si vous voulez contribuer également de façon plutôt au niveau de la nourriture, ou faire les deux, hein, un n'empêche pas l'autre, on a besoin justement de denrées. On veut remercier chacun qui donne des denrées non périssables. Il y a un panier à l'entrée, vous le voyez. Et puis, ces denrées-là vont à des gens de notre communauté qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, vraiment, vous pouvez apporter des denrées, mais vous pouvez également faire un don en précisant le ministère de Carrefour en action. Alors, c'est possible de le faire. Et puis, dernière annonce que je me permets de faire avant d'aller plus loin, c'est que dimanche, le 29 mars prochain, ce sera notre réunion annuelle des membres officiels. Donc, c'est comme notre réunion d'affaires. Donc, tous les membres officiels, ceux qui ont passé à travers le processus, sont conviés, évidemment, à être présents. Si peut-être vous êtes un membre de l'Église, parce que vous faites partie de l'Église, et c'est extraordinaire comme ça, mais que vous n'êtes pas un membre officiel avec toute la démarche, vous êtes évidemment les bienvenus à y assister et à voir qu'est-ce qui se dit là et comment le Seigneur a agi à travers notre année, à travers les ressources qu'il nous a données. Et puis, ce sera un bon temps. Alors, pour l'occasion, ce qu'on fait, c'est que dimanche, le 29, pas dimanche prochain, l'autre d'après, on a un dîner connexion, c'est-à-dire on amène notre lunch, on dîne ici. Ensuite de ça, c'est nous autres qui fournit le dessert, de la tire sur neige. Et puis, ça, c'est toujours très, très bon. Et puis, ensuite de ça, on a notre rencontre annuelle des membres. Donc, s'il y en a qui veulent retourner à la maison, revenir à 13h, vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui veulent rester au repas connexion, manger de la tire puis aller à la maison, vous êtes les bienvenus. Et s'il y en a qui veulent rester pour le dîner connexion, manger de la tire puis rester pour la réunion, vous êtes les bienvenus. Ça va? Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous donne pas d'option au Carrefour. Hein? C'est correct. Alors, simplement le mettre dans votre calendrier. Et puis, le rapport annuel a été envoyé à tous les membres officiels. Si vous ne l'avez pas reçu ou si vous désirez une copie papier, vous pouvez passer au kiosque d'information après notre réunion. Alors, les petites annonces étant passées, ce matin, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous partager et de pouvoir commencer cette série qui s'intitule « Mission, vision et valeurs ». Alors là, vous comprenez que si on partage ça, C'est parce que c'est pas quelque chose qu'on a décidé de faire sur un coin de table en disant « Ah, ça serait le fun d'avoir une phrase pour commission, on aimerait ça avoir des valeurs, on va regarder dans le dictionnaire, oui, celui-là est pas pire. » C'est un travail qu'on a fait avec plusieurs personnes, avec l'équipe pastorale, avec l'équipe de soutien, avec des gens de l'Assemblée qu'on a demandé leur avis, près d'une cinquantaine, des leaders de ministère. Ce que je suis en train de vous présenter ce matin, ce que je vais vous présenter dans les prochaines semaines, c'est pas juste le pasteur principal qui a mangé trop de pizza puis qui s'est dit par la suite, ça serait super d'avoir ça. C'est un processus qu'on a fait ensemble, puis à quelque part, je crois que dans ce processus-là, il y a cette idée-là de discerner ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, mais pour demain également. Puis je vais vous expliquer un petit peu le processus. Je ne le ferai pas à toutes les réunions, mais je vais le faire un peu ce matin parce que je crois que, justement, Dieu nous amène à quelque part et on veut suivre la nuée. On veut suivre ce que le Seigneur place devant nous. Alors, je veux juste présenter, là, vous allez voir, j'ai fait un bac en administration, je m'excuse, OK? On va voir la prochaine image. Ah, un graphique extraordinaire. Un graphique pour expliquer. OK, alors, voyez que en bleu foncé, c'est le triangle le plus grand. OK? Parce que dans ce travail de mission, vision et valeur, une des choses qui était vraiment importante, c'était de revisiter le passé. L'Église, c'est pas quelque chose qui, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est en arrière est passé, est caduc, est fini. Maintenant, nous autres, on fait juste regarder en avant. Parce qu'on croit que Dieu bâtit à long terme. Dieu place des trésors dans l'Église. Et quand on a fait notre 50e anniversaire qu'on a célébré il y a de ça quelques mois, à chaque décennie, on voyait des choses, des pépites d'or que Dieu plaçait au milieu de nous. Des priorités qui étaient précieuses pour le royaume. Et à quelque part, dans notre travail, le but, c'était pas juste de dire, bien, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous dit, mais c'était d'être capable de visiter qu'est-ce que Dieu a fait. Parce que lorsqu'on regarde le passé, et ça, honnêtement, si vous voulez l'appliquer à vos vies, je vous dis, c'est une bonne idée. Vous revisitez le passé, tout ce que Dieu a déposé dans vos vies. Vous regardez ça, puis vous dites, OK, si je mets tous ces points-là ensemble, quelle est la direction dans laquelle Dieu m'amène? Parce que c'est pas vrai que Dieu est un Dieu amnésique. Un Dieu amnésique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous donne quelque chose, il vous place quelque chose à cœur, puis après ça, il l'oublie. C'était juste pour cette fois-là, maintenant, je vais refaire quelque chose de nouveau. Non. Dieu est un sage architecte. Il place des moments, il place des trésors dans nos cœurs. Et il le fait graduellement au point où est-ce qu'on est capable de voir, par la grâce de Dieu, à quel endroit est-ce que Dieu m'appelle pour aujourd'hui et pour plus tard. C'est la même chose pour une église. Alors, je ne vous raconterai pas tous les trésors du passé. Je vais juste vous dire que quand on a fait ce travail-là, et ça fait plus d'un an, presque un an et demi qu'on travaille sur ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un instant. Et justement, on a considéré d'où est-ce qu'on venait. D'où est-ce qu'on venait. Et la première étape, c'est revisiter le passé. Mais la deuxième étape, c'est de discerner le temps présent. C'est-à-dire, aujourd'hui, à la lumière de ce que Dieu a accompli à travers les 50 dernières années, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi les dons que Dieu a placés dans l'Église qu'on regarde ici, là? Qu'est-ce que Dieu, quelle opportunité que Dieu place devant nous? Dans quel contexte on est? Si on recule de 50 ans, le contexte de la ville de Québec n'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est le contexte dans lequel on est? C'est quoi les paroles reçues? C'est quoi les ressources qu'on a? C'est quoi les forces des gens qui composent l'Église? On veut discerner qu'est-ce que Dieu place dans l'Église. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est la deuxième partie un peu plus grosse, c'est le numéro 2. Et le troisième, c'est de rêver du futur avec Dieu, à la lumière de ce que Dieu a placé, à la lumière de ce qu'on discerne du temps actuel, où est-ce que Dieu nous amène. Amen? Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas trop traumatisé par mes graphiques d'administration, ça va? Ça aurait pu être plus compliqué, on aurait pu mettre des ratios, là, mais on garde ça simple ce matin, on garde ça simple. Parce que je dois vous dire que l'idée d'une mission, vision, valeur, ce n'est pas juste le plaisir de rêver avec Dieu de ce que Dieu veut pour nous de façon neutre. Il faut que l'exercice est vraiment de discerner quelle croisée de chemin Dieu a placée devant nous, quelles choses qui se sont placées, quels événements, quels dons, quels talents. Comment est-ce que Dieu, si on croit que Dieu, prépare des œuvres à l'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Croyez-moi, c'est la même chose pour l'Église. Et savez-vous quoi? Ceux qui nous ont précédés ont discerné les œuvres préparées à l'avance, ils les ont accomplies, et on arrive dans un temps où est-ce que nous-mêmes, on a besoin de discerner ce que Dieu dit à l'Église. Comme dans toute Église, aujourd'hui, on se tient sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est dire ah, oui et amen, et on veut se tourner vers l'avant. Amen! Alors vraiment, ce que je veux faire dans notre série, et là aujourd'hui, je vous donne une phrase. La semaine prochaine, on va voir la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur? Aujourd'hui, c'est la mission. La mission, c'est quoi? C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre cible? Qu'est-ce qu'on veut accomplir comme Église? Et finalement, dans deux semaines, on va voir c'est avec quelle valeur, avec quel cœur on veut accomplir cela. Avec quel cœur est-ce qu'on veut aller de l'avant? Ça vous va? Alors, je vous encourage à ne pas manquer ces réunions-là parce qu'il risque d'y avoir quelques éléments importants pour la suite des choses. Là, je sais tout de suite, il y a des gens qui sont nerveux. Vous êtes nerveux parce que vous dites, « Oh, OK, là, il est-tu en train de tout changer? Est-ce que le pasteur, là, il va nous amener, là? » J'ai fait exprès pour vous dire que ce qu'on est en train de faire, on est en train de prendre en compte tout ce que Dieu a déposé à travers les années pour se projeter dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Fait que là, vous pouvez relâcher un petit peu. Exercice de respiration. On expire, on inspire, ça va bien aller. Vous rappelez que ça aussi, ça crée un petit stress supplémentaire parce que quand quelqu'un nous dit « ça va bien aller », on a quelques traumatismes, n'est-ce pas? Hein? On sait que quand quelqu'un dit ça, ça va pas bien aller. Mais là, c'est pas le cas. J'essaie de renverser le traumatisme ce matin. Ça vous va? J'essaie de renverser ça. On en rit, mais c'était pas drôle. Alors, je vais commencer, puis je vais vous dire une phrase que vous avez déjà entendue, mais qui va être la mission de notre Église pour les prochaines années. Et voici, ça va comme ceci. Notre mission, c'est une Église où Jésus construit les vies. Une Église où Jésus construit les vies. Et dans mon esprit, c'est très clair que le Carrefour a été créé pour qu'il y ait des vies transformées. L'œuvre du Saint-Esprit se révèle à travers la transformation, la construction d'une vie de l'intérieur et qui se propage jusqu'à l'extérieur. Une Église où Jésus construit des vies. Alors, notre mission, c'est ça. Notre mission, c'est que les vies soient transformées. Notre mission, c'est que les cœurs soient changés. Notre mission, c'est que les vies soient construites sur la parole de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Puis là, vous allez voir où est-ce qu'on s'enligne avec ça, parce qu'on veut ressembler à Jésus. On ne veut pas construire pour construire, on veut construire nos vies sur quelque chose de solide, sur Jésus qui est le centre de toutes choses. Alors, notre regard, on veut le porter sur les vies transformées. C'est ce qu'on veut célébrer, c'est ce à quoi on veut aspirer, c'est ce qu'on veut répéter, c'est ce qu'on veut rêver, c'est ce qu'on veut croire, parce qu'on croit que Jésus construit les vies. Amen? Amen. OK, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous savez, on est une église pentecôtiste et j'aimerais dire la chose suivante. La guérison physique, la délivrance servent à ce que la vie et le cœur soient changés. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Dans la parole, il y en a 10 qui ont été guéris. Combien sont revenus pour rendre gloire à Dieu? Un seul. Si la vie n'est pas transformée, tu pourrais être guéri 25 fois. Tout ce que tu es en train de faire, c'est de repousser ta date d'expiration. Le but du Seigneur, c'est de transformer le cœur. C'est de construire la vie. Est-ce qu'il peut utiliser ça? La réponse est absolument. Est-ce qu'on croit à ça? La réponse est absolument. Mais nos yeux veulent se tourner vers la transformation des vies. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Et c'est ce qu'on veut vraiment faire. Et dans notre énoncé, je veux utiliser 3 parties. Et on va commencer par le centre de notre énoncé, parce que c'est le centre de toute chose. Jésus est le centre. Et ça, je veux que ça soit très, 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 très clair. On a pesé chaque mot et c'est très important que chacun de nous sachions que Jésus est le centre. Colossiens 1 va dire la chose suivante. On l'a à l'écran, je devine. Colossiens 1 va dire, « Tout a été créé par lui et pour lui. » Jésus existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Est-ce que ça vous dit que Jésus est le premier, ça? Je ne sais pas si c'est clair, là, mais pour moi, c'est très clair qu'on a besoin de mettre Jésus au centre de tout. Et j'aimerais dire que même nous, comme leaders, même comme équipe pastorale, je ne suis pas le pasteur principal de l'Église, c'est Jésus qui l'est. Je suis un adjoint de Dieu qui dirige l'Église. Et ça, je veux que ça soit très, très clair. On veut mettre Jésus au centre de toute chose. 1 Corinthiens 3 va dire la chose suivante. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça, la grâce qui a été donnée à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, non seulement Jésus est le centre, mais Jésus est également la fondation solide sur laquelle on se pose. Et notre travail, c'est de construire par-dessus quoi? Par-dessus ce fondement qui est Jésus-Christ. Et on ne veut pas le faire n'importe comment. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir une mission, vision, valeur? Entre autres à cause de ce passage-là. Quand l'apôtre Paul va dire, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte », vous savez comme moi qu'il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de construction sans plan. Et si vous faites un plan en 30 secondes, il se pourrait que votre construction ne vaille pas grand-chose. Il va dire, « J'ai posé le fondement comme, je l'ai fait de façon stratégique, je ne l'ai fait pas comme au hasard, je l'ai fait en posant ça comme un sage architecte. » Et je crois que Dieu nous appelle justement à être alignés, d'aligner nos ministères, d'aligner nos vies, d'aligner nos cœurs, afin qu'on puisse être de ceux qui sont stratégiques dans le développement du fondement dans la foi, mais également comment tout l'édifice va être construit. Puis là, je ne parle pas de l'édifice physique, je parle de vos vies et de la mienne. Vous savez, j'ai besoin d'être construit dans mon cœur encore aujourd'hui, après plus de, je ne sais pas combien d'années de vie chrétienne, presque 30. J'ai besoin d'être construit, mais j'ai besoin de construire à la bonne place, sur la bonne fondation. Et j'ai besoin d'être stratégique dans comment je construis puis à quel endroit je construis. Jésus est le centre. On veut vraiment être christocentrique, vraiment dans notre approche, dans ce qu'on veut accomplir. Romain va dire ceci dans Romains 11. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Encore une fois, on veut mettre Jésus au centre. Pourquoi? Parce que s'il est au centre, c'est lui qu'on célèbre. C'est à lui que va la gloire. Ce n'est pas nos propres efforts, ce n'est pas nos grands exploits qui ne valent pas grand-chose, mais c'est à lui que revient toute la gloire. Jésus a dit dans Jean 14, un passage que vous connaissez, si vous avez été dans une église plus de 6 mois, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. » Alors, dans notre énoncé, une église où Jésus construit les vies, Jésus est au centre, Jésus est la vedette, Jésus est l'objet de notre foi, Jésus est celui qu'on admire, Jésus est celui qu'on suit, Jésus est le centre du carrefour chrétien de la capitale. Amen? Amen. J'essaie d'être le plus clair possible. Je pense que j'ai dit le mot Jésus assez souvent pour que vous compreniez un peu où est-ce que je m'enligne avec ça. Ça va? Et quand je dis « je m'enligne », je suis en train de parler de toute l'équipe avec laquelle on a travaillé tout ça. Ce n'est pas juste moi. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui arrive et qui donne une mission à tout le monde. C'est ensemble, on a discerné ce que le Seigneur avait pour nous, pour notre Église, puis on va de l'avant avec ça. Amen. OK. Jésus, une Église où Jésus, puis là on va continuer avec la dernière partie, où Jésus construit les vies. La construction des vies. Parce que Jésus change tout. Jésus change tout. Jésus change tout. 2 Corinthiens 5 va dire la chose suivante. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle construction. un nouveau départ avec Jésus, c'est le Dieu qui construit les vies. C'est Jésus qui construit les vies. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? À quoi je fais référence quand on parle d'ici? Parce que des fois, on voit ce passage-là, puis des fois, on va dire, « Ah, je suis en Jésus-Christ, donc je suis une nouvelle créature. » Donc, toutes les blessures du passé sont maintenant en dessous du tapis. Toutes les choses que j'ai vécues, ça n'existe plus. Maintenant, j'avais des péchés, j'en ai plus. Maintenant, Et là, ce qu'on fait, plutôt que de laisser Jésus transformer nos vies, on fait ce qu'on appelle du déni. Parce qu'on prend ce passage-là et on dit, « Tout est fini! » Je le dis dans le nom de Jésus. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ce qui est en train de se passer ici, dans ce passage-là, c'est que si quelqu'un est en Christ, il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup, beaucoup. La première chose qui change, c'est de passer de l'insécurité éternelle à la sécurité éternelle. Si Christ est en toi, tu n'as plus peur d'aller en enfer, tu as juste le goût d'aller au ciel. Tu n'es plus dans la crainte, tu n'es plus dans l'incertitude. Tu sais où est-ce que tu vas parce que tu es passé d'une famille à une autre. Tu es passé d'un fils qui était perdu, d'une fille qui était perdue, à quelqu'un qui a une famille adoptive, Christ. C'est quelque chose de nouveau, ça. Tu as un nouveau statut qui est extraordinaire. Alors que tu te repens, alors que tu es en Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui marche dans la vie avec l'ensemble de ses péchés des 40 dernières années sur ses épaules? Tu sais, quand on est pardonné, on ne se rappelle plus à quoi ça ressemble, hein? Mais est-ce que vous avez déjà imaginé qu'est-ce que c'est de marcher pendant 40 ans avec ses mauvaises décisions, ses mauvais choix, l'insécurité éternelle, et de marcher et que c'est pesant? Alors, lorsque la parole va dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que les péchés sont pardonnés, franchement, là, tu marches léger. Et vous savez qu'est-ce que ça fait, marcher léger? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand l'apôtre Paul va dire « Toutes choses sont devenues nouvelles », il est en train de dire « Votre marche n'est plus la même. Vous marchiez avec un fardeau épouvantable. Vous marchez maintenant léger parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre cœur. Maintenant, parce que vous marchez léger, vous allez être capable de ces blessures-là. On va être capable de les adresser. Dieu va pouvoir construire votre vie. Ces choses qui se sont passées, vous allez être capable de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que par moi-même, je ne suis pas capable. » Et Dieu va construire brique sur brique. J'aimerais vous dire que si Dieu veut construire nos vies, il va falloir un moment donné apprendre à déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit. Et parfois, les choses qui ont besoin d'être déconstruites, c'est justement ces traumatismes qui sont devenus notre identité. Ces choses qui se sont passées qui ont dit « Ah, ben moi, je suis comme ça maintenant. » Les erreurs que j'ai faites qui ont dit « Ah, ben moi, je suis un voleur. Moi, je suis un ci. Moi, je suis un ça. » Jésus a besoin de déconstruire des choses pour reconstruire sur le fondement qui est Jésus-Christ. La vie en lui, cette vie nouvelle, cette nouvelle création, change tout parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. C'est pas rien, ça. J'aimerais vous dire la chose suivante, et même les psychologues vont le dire. Ce que je veux dire, c'est que même la sagesse de gens qui ont fait toutes sortes d'études vont le dire aussi. Si tes pensées changent, ta vie change. Si tes habitudes changent, ta vie change. Si Christ est en nous, renouvelle notre esprit, qu'est-ce qui se passe? Ta vie change. Ta vie change. Et comprenez bien, dans notre énoncé, on n'a pas dit une église qui construit la vie. On a dit une église où est-ce que c'est Jésus qui construit? Ce n'est pas nos efforts de dire... OK, là, il faut que je vienne plus fort. Là. Fait que là, je vais faire tous les efforts, là, puis là, ça va être extraordinaire, puis là, ma vie va changer parce que j'ai fait des efforts. C'est pas ce qu'on est en train de dire, là. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut être une église où est-ce que Jésus construit les vies. Où est-ce que c'est lui qui fait ce travail-là? Où est-ce qu'on ouvre notre cœur à déconstruire des idées qui n'ont aucun bon sens? Il y a des gens ici qui ont construit leur vie sur des choses qui n'ont pas d'allure. Et on essaie de rajouter des briques en Jésus là-dessus, puis on essaie de rajouter des affaires... Puis c'est tout croche à tour de pisse. Il y a des fois, on a besoin de déconstruire. Dieu a besoin de déconstruire, de nous amener à un endroit où est-ce qu'on peut le laisser nous reconstruire sur les bonnes fondations. Si votre fondation est comme ça, quand même, vous rajouteriez 4 briques, les briques vont être croches. On a besoin d'être solide en Jésus. Un cœur nouveau. Hein, Ézéchiel va le dire, je vais prendre votre cœur de pierre et je vais le changer en cœur de chair. Votre cœur était dur, je vais le rendre mou. Est-ce que votre cœur est mou? Est-ce que votre cœur est mou? Vous pouvez palper. Ton cœur est-il mou? Es-tu mou ou pas? Vous trouvez ça drôle, hein? Puis c'est vrai que c'est drôle un petit peu. Mais si on veut laisser Dieu construire nos vies, ce n'est pas avec un cœur de pierre que ça arrive. On a besoin d'un cœur nouveau. On a besoin de laisser Jésus construire nos vies. Et si vous voulez laisser Jésus construire vos vies, vous avez besoin d'un cœur mou. Un cœur qui est prêt à dire, « Seigneur, que veux-tu faire? Seigneur, je suis là. Seigneur, je te laisse déconstruire des choses que ça va faire mal, mais je sais que c'est parce que tu veux reconstruire pour ta gloire. » La construction des vies, c'est du sérieux, mes amis. C'est pas juste banal. C'est pas juste de rajouter un petit peu de décoration à la maison. Il y a des fois, il faut faire tomber des murs pour reconstruire. Des fois, c'est tannant un peu, mais bon. Galates 2 va dire la chose suivante. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je pense que c'est un bon conseil, ça, si on veut laisser Jésus construire nos vies. Plutôt que juste dire, « Ben moi, je vais vivre ma vie, puis j'espère que Dieu va faire quelque chose, j'espère qu'il va mettre la brique à la bonne place. » C'est dire, « Non, non, ma vie, je veux la vivre à la lumière de moi qui est une nouvelle créature, du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi. Je veux laisser Dieu agir afin que ce soit lui qui place les éléments au bon endroit, qui place les pierres au bon endroit. Je veux le laisser construire ma vie. Je suis crucifié avec Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Crucifié avec Christ. C'est pas de la dentelle, ça, là, hein? C'est cette idée-là que, de la même façon que je meurs à moi-même, comme Christ est mort à lui-même, bien, de la même façon, je veux vivre cette vie ressuscitée comme Christ a vécu cette vie ressuscitée. Je vis plus ma vie pour moi-même. Christ est mort pour mes péchés. Christ m'a donné toute la vie, m'a donné l'assurance de mon salut, le pardon de mes péchés. Alors moi, je ne suis plus là pour vivre pour moi-même. Je veux vivre pour celui qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Christ, celui qui change tout. Christ, celui qui change tout. On aimerait que Dieu change nos circonstances, mais des fois, on est frileux de ce qui change nos cœurs. On prie pour les miracles, mais on refuse qu'il change notre cœur. Et vous savez, c'est ce qu'on veut vraiment comme Église être. Une Église où est-ce qu'on n'a pas peur de laisser changer nos cœurs. Oui, on va prier avec foi quand il arrivera quelque chose d'épouvantable dans votre vie. Oui, on va prier avec toute la foi qu'on a. On va le faire. Mais notre but, ce n'est pas juste que Dieu change nos circonstances extérieures, c'est que Dieu change nos cœurs. Quand j'ai passé par des périodes de souffrance, il y a un moment donné où est-ce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, « Je ne veux pas que tu arrêtes cette souffrance-là avant que je puisse apprendre ce que tu veux que j'apprenne. » Parce que sinon, je suis condamné à repasser dans le cycle après. Je veux apprendre ce que Dieu a à m'apprendre. Je veux que mon cœur soit assez tendre pour saisir ce que j'ai besoin de saisir, pour grandir, pour être construit. Alors parfois, la grande victoire n'est pas la délivrance par des signes et des prodiges. Le plus grand miracle, c'est une nouvelle naissance. Le plus grand miracle qui puisse arriver à un homme ou à une femme, c'est celle de naître de nouveau dans l'esprit. Amen. Amen. OK, je continue. Je pourrais prêcher longtemps là-dessus, croyez-moi. OK. Prochain, on passe à la première chose, une église où Jésus, puis là je le dis comme ceci, Jésus réunit les croyants. L'église, vous savez, c'est vous et moi, c'est pas les murs, ça va ça? On replace les bases comme il faut. L'église, c'est les croyants rassemblés. Et j'aimerais dire que Christ est celui qui réunit les croyants pour transformer notre monde. En fait, notre but, c'est d'être une église, un regroupement, une assemblée, des gens ensemble qui sont transformés et qui veulent non seulement continuer d'être transformés de gloire en gloire, mais veulent permettre à ceux qui ne sont pas encore transformés de le devenir. Le but de la transformation du Seigneur n'est pas juste de devenir un chrétien niveau 63 avec les échelons. Le but de ressembler à Christ, c'est d'attirer d'autres à ressembler à Jésus-Christ. Des gens transformés qui, par leur transformation, par la construction que Jésus a faite, que personne d'autre pouvait faire, vont amener ceux qui ne connaissent pas encore cette nouvelle vie en lui à le connaître, et à le laisser construire leur vie. Dans Éphésiens 2, ça va dire la chose suivante. Quand vous voyez le mot « édifier », c'est la même chose qu'être construit. C'est comme ça s'élève, c'est comme ça se construit. Okay? Vous avez été édifié, vous avez été construit sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre de fondation. C'est en lui, en Jésus, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce qu'il est en train de dire, il dit, sur la fondation, il y a des briques qui s'élèvent. Et ça, c'est nos vies. C'est l'idée du temple de Dieu qui est en nous, qui s'élève et qui se construit, qui se fait de façon bien coordonnée, qui s'élève pour être un temple saint, sanctifié pour le Seigneur. Et il continue. C'est en lui, verset 22, que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux, pour former une habitation de Dieu en esprit. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les vies transformées, les vies construites, s'assemblent ensemble pour former ensemble une habitation de Dieu, l'Église. L'Église, l'ensemble des gens qui sont transformés, qui sont édifiés sur le même fondement, Jésus-Christ, mais qui laissent Jésus construire leur vie pour ensemble être de ceux qui amènent d'autres à vivre cette transformation du cœur. Notre monde a besoin de vivre cette nouvelle naissance-là, croyez-moi. On a besoin d'une vie nouvelle. Si vous regardez tous les films, il y a toujours cette idée d'une vie nouvelle, cette idée d'un nouveau départ, cette idée de « les problèmes sont terminés, tout va bien ». Les gens recherchent ça, mais parfois on est gêné. Parfois on est gêné de témoigner à quel point Dieu a transformé nos vies, nos cœurs. Transformer l'essence même, la direction même de nos vies. Parfois, vous savez quoi? On est tellement habitué de vivre dans l'Église qu'on a oublié que Jésus nous a transformés. C'est quelque chose. On a oublié qu'on allait dans une direction, puis on est allé complètement dans l'autre direction. Nos pensées ont changé, notre cœur a changé. Est-ce qu'il est parfait parce qu'il a changé de direction? Oh, mon cœur n'est pas parfait. Mais il n'est certainement pas à l'endroit où il était. Il n'est certainement pas à cet endroit-là. Et cette idée-là d'une église où Jésus construit les vies d'une église, c'est cette idée-là de nous, on choisit de vivre la foi, de grandir, de servir ensemble comme église. On veut le faire ensemble. Donc, la construction n'est pas juste individuelle, chacun de son côté, mais ensemble, on est en train de construire une habitation de Dieu. Ensemble, on est en train de construire une église où est-ce que quand les gens viennent à l'intérieur, ils savent que Dieu est puissant. Ils savent que Dieu agit, que Dieu transforme encore les vies, que Dieu construit les vies. Dans notre processus, on a sondé un peu moins qu'une cinquantaine de personnes de l'Assemblée. Fait que là, si vous dites, ah, mais là, ils m'ont pas. Là, on ne peut pas avoir 800 personnes dans le sondage, là, comprenez-moi bien. Okay? Mais on l'a fait pour certains. Et voici quelques commentaires de personnes qui ont vu une église où Jésus construit les vies. Et voici ce qu'ils ont dit. Alors ça, ça ne vient pas de moi, ça vient des gens qui ont vu une église où Jésus construit les vies. Alors, le premier va dire, Jésus est au centre de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Amen. Une autre va dire, ça parle d'être de plus en plus solide. J'aime ça. Une autre personne va dire, il y a un mouvement, une construction, et ça laisse le rôle principal à Jésus-Christ. J'aime beaucoup. Une autre personne va dire, construire, c'est vraiment, construire, c'est bâtir avec un plan déterminé. Ce n'est pas de l'improvisation. Dieu est en contrôle. J'aime ça également. Une autre personne va dire, le verbe construire est vraiment excellent. Dans une construction, il y a des travaux simples et il y a des travaux compliqués. Et chacun doit être exécuté dans un certain ordre. La construction se fait de l'enfant à l'aîné. c'est très important de dire que c'est Jésus qui construit. Amen. Une autre personne a dit la chose suivante. Ce ne sont pas les pasteurs ou leaders qui construisent les vies, c'est Christ, à lui la gloire. Amen. Une autre personne dit, il y a toujours de l'espoir pour repartir sur de nouvelles bases, pour construire ou reconstruire malgré les erreurs commises. Amen à ça. Et le dernier commentaire que je vous partage va dire que cette mission-là parle de la transformation dans tous les aspects de notre vie. Nous ne sommes pas dans la passivité, mais nous laissons Christ nous construire. Amen. Ça, c'est ce que des gens autour de vous ont partagé à la lumière de cette mission-là qu'on se donne. Alors, j'aimerais vous dire un peu, c'est quoi les implications de cette mission-là? Ce n'est pas un terme qui est nouveau, une église où Jésus construit les vies, c'est là depuis quand même quelques années. Mais j'aimerais vous partager un peu qu'est-ce que ça implique pour nous au Carrefour. En fait, ça implique que nous choisissons que le fondement de nos activités, de nos priorités, de nos ministères, de notre vision, soit Jésus-Christ. Jésus est le fondement. On peut passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. La deuxième chose, nous choisissons les priorités de Jésus-Christ dans la parole plutôt que notre confort. Nous choisissons de fixer nos yeux sur Jésus-Christ plutôt que de fixer nos yeux sur notre propre confort. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Parce que si on veut laisser Jésus construire nos vies, Jésus ne construit pas juste nos vies pour qu'on soit confortable. Hein? En fait, il ne le fait pas pour ça. Il le fait pour qu'on soit semblable à lui. Et si dans vos vies, il y a des choses qui ne ressemblent pas à Christ, ça se peut que ça fasse mal qu'elles soient transformées. Puis savez-vous quoi? C'est le meilleur pour vous, puis c'est le meilleur pour moi aussi. Ressembler à Christ, c'est la meilleure chose. On choisit la parole plutôt que notre confort, les priorités de Jésus. On décide aussi qu'on choisit de se bâtir les uns les autres dans la foi. Notre rôle dans la construction des vies, c'est de laisser Jésus construire nos vies, mais c'est de laisser Jésus construire la vie de ceux qui nous entourent, du plus petit jusqu'au plus expérimenté. C'est pas moi qui avais choisi le terme « aîné » en passant. C'est une citation. Mais on veut laisser Jésus construire et on veut être de ceux qui favorisent la construction des vies les uns les autres. Nous choisissons de faire connaître l'Évangile, Jésus celui qui construit les vies. Et notre rôle, ce n'est pas juste d'être passif, dans le sens de dire, « Ah ben je laisse Jésus construire ma vie, puis c'est assez de travail, fait que je m'arrête là. » Non. Notre rôle ici, c'est de partager l'Évangile, cette bonne nouvelle-là. On la partage aux autres. On partage celui qui construit les vies aux gens de notre entourage. Notre mission, ce n'est pas de rester ici pour être construit pour notre propre confort. Au contraire, notre mission, c'est que le plus grand nombre puissent voir leur vie construite en Jésus-Christ. Et croyez-moi, dans la ville de Québec, il manque beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre témoigner les vies qui ont été transformées dans cette salle. Beaucoup, beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ça. Beaucoup. Et la dernière implication, c'est une choisissant de construire cette église, chacun en s'impliquant concrètement. On va être de ceux qui agissent. Maintenant, je vais inviter l'équipe de louange à venir me rejoindre. Je ne sais pas si vous sentez mon cœur dans cette idée-là de construire les vies, de faire de Jésus le centre. Peut-être que vous dites, oh, ben, il n'y a pas de changement, c'est super, c'est extraordinaire. Mais en fait, notre but avec Mission Vision Valeur, c'est d'aligner notre vision pour que ce soit vraiment notre cible. Et il y a une image, en fait, une image, c'est toute une image. Dans Ézéchiel 37, je vais lire quelques, il n'est pas sur l'écran, dans Ézéchiel 37, et je pense que c'est vraiment un peu l'appel qu'on a ici au Carrefour. Ézéchiel est transporté en esprit, puis il se ramasse dans une vallée qui est remplie d'ossements. Une vallée avec des os desséchés. Et c'est comme si le Seigneur lui montre cette vision-là dans Ézéchiel 37. Puis, lui, il voit des os complètement secs. Il va poser une question à Dieu. Il va dire, c'est Dieu qui va lui dire, est-ce que ces os pourront revivre? Il y a des ossements partout. Puis c'est comme si le Seigneur dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces os-là, ces os-là peuvent revivre? Alors, le prophète va dire, Seigneur, ben, c'est toi qui le sais. Alors, Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux-là. Prophétise sur eux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et voici ce que dit l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Et là, il se met à prophétiser ça. Et là, il y a un mouvement qui se produit. Il y a un mouvement qui se produit où est-ce que les os se mettent à se redresser. Et il y a de la chair qui se met à se greffer à l'os. Il y a de la peau qui est là. Et là, de simples ossements deviennent des êtres humains avec ce qu'ils ont besoin. Et là, la job n'est pas finie. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Esprit. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est comme il y a des êtres humains avec de la chair, avec de la peau. Et là, ils sont debout, mais il manque quelque chose, il manque la vie. Il n'y a pas la vie encore de l'Esprit dedans. Il va dire, prophétise la vie, prophétise l'Esprit. Et il se met à le faire. Alors, ça veut dire, alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je prends ce texte-là. C'est une image, OK? C'est une vision. Je ne suis pas en train de dire que Ézéchiel a été écrit pour le Carrefour chrétien de la capitale en 2026. Comprenez-moi bien. Mais je pense ici que c'est exactement notre mandat d'une église où Jésus construit les vies. On a besoin d'annoncer que des eaux desséchées peuvent revivre. On a besoin de construire la vie, nos vies, mais également la vie de ceux qui nous entourent, afin qu'ils puissent réaliser que des eaux, il peut y avoir de la chair qui se greffe, il peut y avoir de la peau qui s'ajoute, ils peuvent se tenir debout. Mais nous, notre rôle ne se termine pas. On est encore en train de prophétiser la vie afin qu'il puisse être non pas seulement un corps construit, mais une vie construite, une nouvelle naissance, un élan, et c'est une armée qui devient très nombreuse. Alors moi, je suis en train de dire ce matin, je suis en train de dire, soyons de ceux qui voient les eaux desséchées, mais qui ne s'arrêtent pas là. Qui voient les eaux desséchées, mais qui disent, moi, je veux croire que Dieu peut construire la vie même d'un os qui est desséché, qui est pourri sur le bord. Je peux croire que Jésus est capable non seulement de le relever, mais d'insuffler la vie de l'Esprit, afin qu'il marche en nouveauté de vie et devienne même une armée très nombreuse. Je crois que le Seigneur veut agir parmi nous, frères et sœurs. Je pense que le Seigneur veut agir, veut nous utiliser pour être de ceux qui construisent les vies. Pas nous, mais on conduit les gens à Christ. On construit les gens à Christ. Il y avait un homme dans le Nouveau Testament, il s'appelait Zachée. Il ne me ressemblait pas parce qu'il était vraiment plus petit que moi. Et Zachée voulait voir Jésus, mais sa taille l'empêchait de le voir. La foule l'empêchait de le voir. Et un jour, il s'est dit, moi, j'aimerais ça, voir Jésus. Alors, je vais essayer d'anticiper la trajectoire, puis je vais aller grimper dans un arbre parce que je veux voir Jésus. Alors, il s'exécute, il monte dans l'arbre. Jésus passe là et le voit. En fait, Zachée a vu Jésus, mais Jésus l'avait vu avant, vous savez. Hein? Et Zachée est là et voit Jésus. Et c'est drôle parce que Jésus va l'inviter à aller chez lui. Il va dire, Zachée, il faut que j'aille chez toi. Jésus l'a vu. Ils ont soupé ensemble. Miracle, transformation du cœur complète. Vous pouvez lire ça dans l'Évangile, c'est extraordinaire. J'aimerais vous dire que notre rôle comme croyant, c'est d'être ce sycomore-là. Le sycomore, c'est l'arbre dans lequel Zachée a grimpé. Moi, je veux être une personne que lorsque les personnes sont vers moi, moi, je les soulève pour qu'ils puissent voir Jésus. Je ne suis pas capable de changer la vie de Zachée. Je ne suis pas capable d'y donner un pied de ce que j'ai comme grandeur. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais ce que je suis capable, c'est de l'élever afin qu'ils puissent voir Jésus. Et quand ils voient Jésus, quand ils rencontrent Jésus, bien là, se produit exactement ce que je suis en train de parler depuis le début de cette réunion-là. C'est Jésus qui construit sa vie. C'est Jésus qui soupe avec lui. C'est Jésus qui change ses priorités. C'est Jésus qui lui fait prendre des nouvelles décisions. C'est Jésus qui le convainc de péché, de justice et de jugement. C'est Jésus qui fait l'œuvre que nous, on ne peut pas faire. Mais si nous ne sommes pas de ceux qui amenons ces gens-là afin qu'ils voient Jésus, qui va le faire? 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 Si on n'amène pas les gens à voir que Jésus construit les vies, qui le fera? Qui le fera? Alors moi, j'aimerais prophétiser des ossements desséchés qui prennent vie. J'aimerais voir dans cette ville des vies transformées de gloire en gloire d'un assez grand nombre que les églises à Québec ne seront pas capables de les contenir parce qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville. Alors, on va chanter un chant dans quelques moments. Merci pour la patience des musiciens. Je me suis encore emporté. Personnellement, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes prêts à laisser Jésus construire et transformer votre vie encore? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à laisser Jésus construire leur vie? Parce que si on n'est pas là, on ne peut pas après ça construire la vie ou d'amener les autres à avoir leur vie construite en Christ. Et collectivement, l'appel est le suivant. Jésus, je veux entrer dans cette mission de collaborer avec toi pour que le maximum de vie soit construite dans cette ville, dans cette église. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, on est devant toi. Et on croit qu'une église où Jésus construit les vies, c'est ton idée à toi. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est ton idée à toi. Seigneur, permets-nous de voir ce que toi tu vois. Permets-nous d'entrer dans les œuvres préparées d'avance que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à être de ceux qui amènent les gens à voir Jésus, à s'élever afin qu'ils puissent te voir. Est-ce qu'on peut chacun de notre place juste prier le Seigneur pour ce qu'il veut faire dans cette église-ci. Est-ce qu'on peut élever notre voix, chacun à son siège, et on va juste demander à Dieu de remplir ce lieu de vie transformée au nom de Jésus.